Saturn.
Odissea 14702 prima.
Avanti.
Azione.
是我，如果有多张船飞。 你会不会同我一起走？
The way of the samurai is one of immediacy, and it is best to dash in headlong.
जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो जान पहचान हो जीना आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो जीना आसान हो
en France, ça n'existe que là-bas, comme on dirait.
Au Japon ?
Voilà, tout à fait. Et en fait, oui, c'est entre le raton laveur...
Et le ragondin, en fait.
Et le ragondin,
voilà,
si
je vois qu'en plus, ils ont lu, quand ils étaient petits, la Hulotte, le journal des écolos, donc ils ont... Guillaume est au fait du ragondin, de tout ça. Donc, et c'est Tanuki, donc, lutte contre la déforestation, puisque la ville gagne, c'est ça, sur leur espace vital.
Tout à fait.
Alors, c'est Tanuki.
Donc, tu as parlé de sortie, donc c'est bien la dernière sortie du studio Ghibli, mais le film date de 94, on revient 10 ans en arrière.
Mais voilà, en fait, les Japonais nous inondent, enfin les studios Ghibli, de vieux trucs qu'eux,
c'est
ils ont
pas
déjà
vraiment,
vu.
Je pense pas que c'est de leur faute, entre guillemets, je pense que c'est plus les distributeurs français. De fait, depuis que Hayao Miyazaki, qui dirige le studio Ghibli, fonctionne, donc le château ambulant, le voyage de Chihiro, surtout Princesse Mononoke, et bah les distributeurs ont bien flairé le business, on va appeler ça comme ça, ils nous ressortent tous les années au moins 4-5 films du studio qui des 10 à 30 ans en arrière, et soit ils le vendent comme le nouveau film de Hayao Miyazaki, ce qui est totalement faux, soit comme là ils disent c'est juste une sortie avant Chihiro, avant le tombeau des lucioles pour Takahata ou les voisins Yamada. Voilà, tout à fait. Et bah on revient à leur première création, et là le premier succès qui avait battu quand même le Roi Lion au Japon au box-office, qui n'est pas des moindres, voilà, tout à fait. Et donc là, on assiste un peu à une rétrospective, tant mieux, parce qu'on voit un peu ce culturel japonais arriver chez nous. Et donc là, les tanuki, qu'est-ce que c'est? Alors tu as dit, c'est des petites bestioles, etc.
Des grosses bestioles.
Et ces grosses bestioles ont un pouvoir, hein, puisqu'elles peuvent se transformer en humains.
Non.
Et oui.
Je refais l'accent.
Hein. Oui. Mais oui, tout à fait. Donc en fait, ils se transforment. Et en fait, cette transformation se fait, on va dire, en trois étapes. C'est-à-dire que le film commence par un dessin très réaliste, où tu vois donc ces ragondins dévaler une vallée, puis ils se transforment en sorte de personnage de dessin animé, et ils sortent les samouraïs, les sabres pour se battre en tant que samouraï. Donc là, on rentre directement dans le folklore et dans le, on va dire le
folklore,
l'enchantement, j'ai envie de dire le magique.
Donc, tout de suite, on sait que tu aimes, hein.
Voilà, tout de suite, on comprend que ça s'adresse aux enfants très rapidement. Toutes leurs mésaventures, que ça soit entre les clans de tanuki, puis après contre la déforestation et contre les humains, ça reste très inspiré, de la culture japonaise, des subtilités, des contes et des légendes japonaises. Donc là, je pense que les petits vont peut-être avoir du mal par moment.
Attends, mais tu t'en fous quand t'es petit, tu comprends pas tout. Mais
voilà, c'est
grave,
ce qui est magique dans le film, c'est qu'à un moment, il y a, on va dire, un défilé de fantômes japonais, etc. Et ça dure bien un quart d'heure. Et on est là, on est baba, il n'y a aucun dialogue. Et c'est vraiment magnifique. Alors là,
c'est pas un conte initiatique comme Miyazaki nous y avait habitué. C'est-à-dire que le château ambulant, Princesse Mononoke, tout ça, ce sont quand même des enfants.
Voilà.
Franchissent
déjà
les
de fait, là il n'y a pas de personnage principal, donc c'est les tanuki en général, et il n'y a pas d'humain. Donc là, c'est peut-être ça qui va peut-être empêcher par moment les enfants de rentrer vraiment dans le récit, parce que ça dure pas moins de 2 heures. c'est ce qu'on peut reprocher. Il y a des problèmes de rythme. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, le film, au final, ne s'adresse vraiment pas aux enfants, mais aux grands-grands-grands-enfants, voire les adultes, donc.
Tout à puisque fait, très c'est bien ce que tu sous-entends.
Voilà, puisque par cette capacité à devenir des humains, il va d'une fable un peu écologique, voire quasiment pamphlet par moment, ça va venir très rapidement, surtout par un dernier rebondissement que je vais pas dire là, parce que je vais arrêter de raconter la fin des films.
Oui,
ça se transforme en vrai conte humaniste, et quand le générique y défile, on commence à se poser des questions sur la place de l'homme en fait sur Terre, pas que par rapport à la nature, mais par rapport à lui-même et par rapport aux générations d'avant et d'après.
Ça, c'est une grande constante dans le cinéma de Miyazaki, et je dirais presque dans un certain cinéma japonais, à savoir la préservation de la nature, le retour à la nature. Voilà. Alors, Guillaume est encore dubitatif, j'ai déjà mal prononcé le studio Ghibli, et en plus, je ne connais rien au cinéma japonais.
Non, mais la réflexion, là, je trouve, est poussé beaucoup plus loin, et donc la plupart des enfants vont s'arrêter au milieu du film, au bout d'une heure, une heure et demie, après les différentes tentatives des Tanuki pour repousser les humains. Ils vont abandonner là, je pense, ils vont peut-être un peu s'ennuyer avec les adultes, c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont être pris par un deuxième degré de lecture, voire un troisième sur la fin, où c'est vraiment de la philosophie pure, et moi je trouve que c'est vraiment très très intéressant, mais là les enfants, bon, peut-être qu'on va pas leur... Ouais. Voilà.
D'accord, donc il s'agissait de Pompoko, d'Isao Takahata, c'est sorti aujourd'hui, ça dure 1h59.
Ça marche très très bien, depuis la première séance de 14h.
Depuis ce matin?
Oui.
Comment tu... Guillaume?
Oui, moi je trouve que ça fait plaisir en fait de voir Takahata, qui est en fait l'associé de Miyazaki dans les studios Ghibli et qui avait été un peu éclipsé par Miyazaki. Et en fait Takahata est beaucoup plus intéressant parce qu'il sombre moins dans le niais et dans le bateau en fait.
C'est
que
pas niais, Miyazaki.
Quand même, au bout d'un moment.
Non, disons que, justement, disons, c'est de beaux récits initiatiques.
Voilà. Disons que Miyazaki raconte toujours la même histoire,
oui,
à peu près,
ça.
Mais toujours avec le même talent. Alors que Takahata jongle entre d'un côté Mevasan Yamada, qui est une parodie et une critique sociale parfaite, et d'un autre côté Le Tombeau des Lucioles, qui a dû en faire pleurer plus d'un dans les chaumières. Et donc je pense que lui...
Tiré d'un très très beau roman, hein.
Oui,
je ne sais pas
si
vous l'avez lu. Aux et éditions donc... Philippe Piquet, faut le dire. Non, mais attends.
Et donc là, avec Popoko, c'est encore un autre giste. Et donc c'est vrai qu'il est peut-être plus touche à tout et j'allais dire plus talentueux, mais bon, je m'y risquerai pas.
Il a une profondeur que Miyazaki, je trouve, n'a pas. Et sur la sortie en fait des films des studios Ghibli, ben tout simplement, c'est Buena Vista qui a en fait les droits de distribution de ces films en dehors du Japon. Et donc Buena Vista, c'est une filiale de Disney. Évidemment, les films des studios Ghibli font un peu concurrence aux productions maison.
Donc on
maison.
Essaie de pas les sortir en même
donc
temps que les
sort
Pixar ou les machins.
Goutte à goutte, voilà. Et donc Disney, on l'a appris il y a pas longtemps, abandonne complètement en fait le dessin animé. Et donc ça va être un créneau qui va être récupéré par les studios Ghibli. Tant mieux.
Bon, très bien. Alors juste, j'avais une dernière question sur Pompoko, qui m'a été communiquée par notre confrère Julien, qui n'est pas là ce soir. Mais
que
qui...
veut dire Pompoko, non?
Non, c'est pas ça. Il paraît qu'ils se bagarrent avec leur partie génitale.
En VO ST, je l'ai vu, ça s'appelle les roustons, tout à fait. Et c'est pas choquant pour deux sous, c'est ça qui est assez impressionnant. C'est
non,
que
mais
oui,
les roustons, oui, c'est...
Leurs pouvoirs magiques viennent en fait de leurs attributs.
Mais tu dis même pas les choses essentielles. Je suis obligée de te tirer les
verres du nez. C'est ça qui est assez magique, c'est que moi je me suis même pas posé la question, ça ne m'a même pas choqué. Ça apparaît tellement naturellement dans l'histoire et dans le récit que c'est un élément de plus. Et ouais, c'est ça qui est parfait. Alors Pompoko,
excusez-moi,
par contre...
Excusez-moi, mais alors c'est peut-être pas un récit initiatique, mais enfin quand t'as le pouvoir sexuel qui vient des roustons, comme vous dites si élégamment, c'est quand même pareil, la métaphore est... Ça, on le retrouve aussi chez Miyazaki, mais non, du pouvoir sexuel, c'est très présent aussi dans les dessins animés, que ce soit Kiki la petite sorcière ou le château ambulant, c'est les transformations dues à une sorte de mutation sexuelle liée à l'adolescence.
Voilà.
Okay,
par exemple.
Donc,
non, mais c'est. Oui, oui, oui.
Mon analyse vous laisse un peu pantois.
Il y en a qui en auront une autre quand ils verront que je parlais de conte humaniste. Et bah, c'est aussi un récit initiatique. Psychanalytique aussi. Oui.
Voilà. Bon, et bien sûr, ces bonnes paroles et ces batailles de rouston. Comme, voilà. Un peu de musique.
le film de la semaine.
Allô, c'est bon, voilà, je suis de retour, et vous aussi sur les ondes de Radio Campus Paris pour Extérieur Nuit. Donc le film de la semaine, vous l'avez compris, juste vous dire que la musique que vous venez d'écouter est du groupe Clap Your Hands, Say Yeah. Et là aussi, on a clapé nos hands et on a say yeah quand on a vu le film. C'est joli ce que je viens de faire. Quand on a vu le film de la semaine, puisqu'il s'agit du secret de Brokeback Mountain. Oh yeah. Le dernier film d'Ang Lee. Le petit pitch avant un son récolté par Guillaume, le poète un peu de cette émission. Donc l'histoire du secret de Brokeback Mountain. Il s'agit de Jack et Ennis, deux saisonniers, hein, plus, enfin des cow-boys, mais des saisonniers qui vont effectuer la transhumance des moutons à Brokeback Mountain, qui est dans le Wyoming. Et forcément, on est seul dans la montagne, il fait beau, une rivière coule. Arrive ce qui arrive, Jack et Ennis tombent amoureux. Malheureusement, dans les années 60, c'est pas toujours évident pour deux cow-boys de s'aimer. C'est donc un amour fugitif, furtif, je dirais, que nous allons suivre durant 20 ans, puisque c'est une histoire d'amour qui dure. Et avant de parler plus amplement de ce sublime film, je crois qu'on est d'accord autour de cette table. Non, Guillaume. Guillaume, ce soir, a décidé de nous saouler et de pas être d'accord. Bon, bref, de ce sublime film pour Vincent et moi, pas si sublime que ça pour Guillaume, nous allons y revenir. Écoutons ce son qu'il est allé nous chercher.
Cool.
Ils vont pas nous montrer des gros navets genre Godzilla, j'espère.
Non, non, Cal, il n'y aura que des films indépendants.
Oh, comme Independence Day, ça aussi, c'était nul.
Non, vieux, les films indépendants, c'est les films de hippies en noir et blanc où ils parlent que de cow-boys pédés qui bouffent du pot.
Voilà, des films de cow-boy PD, merci Guillaume, c'est la place intégrale, vous aurez sans doute reconnu.
J'ai rêvé de placer cet extrait, j'attendais qu'un film avec des cow-boys homosexuels sorte, et enfin un film est sorti, j'ai pu placer mon extrait.
Écoute, nous sommes ravis d'avoir pu t'accorder cette joie. Donc il s'agissait d'un extrait de South Park, vous aurez reconnu Kenny et les autres, qui parle du festival du film indépendant de South Park, parodie évidemment de celui de Sundance. Alors revenons un petit peu sur ce film d'Ang Lee, qui nous avait habitués à parler d'amour, notamment avec Raison et Sentiment, la très très belle adaptation qu'il avait fait du roman de Jane Austen, et qui, chose intéressante, traitait Vincent d'amour plutôt bavarde, d'amour qui s'explique, qui se raconte. Et là, on est dans un amour extrêmement mutique, finalement, qui n'ose pas dire son nom au départ et qui se tait puisque ils craignent le regard d'une société puritaine braquée sur eux.
Moi, j'irais plus loin encore. C'est que tu parles de Raison et Sentiment, donc, mais il a aussi fait Hulk, il faut pas oublier, The Ice Storm, le tigre et dragon. Moi, je pense qu'on peut parler de multiples talents. Enfin, c'est un talent multiple.
Oui, non, mais là, je faisais juste ce qu'on appelle un parallèle.
Oui, mais je pense
avec
que
Hulk,
je pense que
un peu plus de mal.
Non, moi, je pense que c'est quelqu'un. Beaucoup parlent de la violence intérieure, en fait. Et je pense que c'est exactement ça. Alors, moi, je vais parler. La comparaison avec Hulk, elle va durer deux secondes.
Non, dans mais c'est là parce que là.
Dans le sens où, d'un côté, on avait un Eric Bana. Certains diront presque constipé pour son désordre intérieur. Et d'un autre côté, on avait une avalanche d'effets spéciaux et je trouvais que ces deux pendants du film étaient assez intéressants. Et après, on peut revenir à ta comparaison avec Raison et Sentiment.
S'il te plaît, oui.
Voilà, voilà. Moi, je trouve que même The Ice Storm, d'une certaine manière, c'est des films...
The Ice Storm, c'était le film avec Sigourney Weaver, hein, c'est ça
et, oui, Toby
Kevin
Maguire
et
aussi,
Kevin
je crois.
Et Kevin Kline, non, il y avait aussi dans c'est... le bon.
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est... Bah on retrouve tout ce qui fait plus ou moins Ang Lee, je trouve. C'est-à-dire, moi, c'est la délicatesse, en fait. Que ce soit que les personnages parlent beaucoup ou qu'ils parlent très peu. C'est cette délicatesse dès le début. C'est de longs plans panoramiques. Certains diront un peu facile. De...
Oh, mais qu'est-ce que c'est beau, le
voilà,
Wyoming.
On peut pas s'empêcher, même si ça peut paraître facile, un peu carte postale. C'est accompagné d'une musique sublime. Et donc, ça prend son temps, en fait, pour installer ce décor-là. Puis ces personnages un peu perdus. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'a marqué dans cette, on va dire, dans cette prémisse d'amour, c'est la maladresse, en fait. Moi, ce que j'ai retenu de ce film, c'est qu'au début, quand on voit leurs atermoiements amoureux, c'est qu'on rigole plus qu'autre chose. On sourit, des fois, ils sont limite ridicules et on peut dire, oh, le film rate ce qu'il veut raconter. Et en fait, non, pas du tout. Bien au contraire. C'est-à-dire, pour deux hommes qui n'ont pas du tout connu ça, c'est contre les conventions, donc j'ai trouvé que le réalisateur arrivait parfaitement à saisir le côté réaliste en fait des choses. Que ça soit, on peut pas dire, mais à un moment ils roulent ensemble, voilà, dans un pré. Alors ça peut paraître totalement ridicule, mais dans la réalité ça peut arriver. Surtout qu'à cette scène-là, il y en a une autre qui est vachement plus, on va dire,
toi,
physique.
Tu roules souvent dans les prés, non?
Ouais, enfin, pas avec des cow-boys, mais si tu veux. Mais, et d'un autre côté, on a une scène sous la tente qui est très très violente, surprenante, on sait pas d'où elle déboule.
Bah, on peut le dire clairement, c'est la première fois voilà, que tu consens, une scène de sodomie assez crue.
Voilà, c'est très cru, et donc ça passe d'un côté à l'autre, d'un ridicule à l'autre, hein, on peut appeler ça du ridicule. C'est toujours un peu borderline, j'ai une expression un peu tendance. Et moi, j'ai trouvé que c'était ce côté-là amené en fait la suite du film, à savoir donc les 20 ans, qui sont en fait l'écho permanent de ce qui s'est passé avant.
Back Mountain.
Voilà.
Qui est une sorte d'Éden dans lequel il retourne périodiquement en fait pour revivre ses premiers instants voilà. de bonheur, d'innocence aussi, parce que c'est ça, Brokeback Mountain, c'est une sorte d'Éden perdu où personne n'est là pour juger de leur comportement. Et c'est vrai que c'est un film sur l'entrechoquement des corps, puisque Jack Ennis, à la fin de sa transhumance, décide de ne plus se voir. Il se retrouve, je crois, 4 ans après. Et il se retrouve avec une espèce de sauvagerie, de férocité.
Mais c'est ça.
Il s'embrasse, on entend presque les dents s'entrechoquer tellement il y a de violence.
Ce qui est assez intéressant, c'est que, on va dire, il y en a l'un quand ils sont tous les deux, il y en a un qui fait un pas vers l'autre. Et quand ils se retrouvent, je crois que c'est 4 ans après,
c'est
bizarrement, c'est l'autre qui fait le pas. Alors qu'on aurait cru que c'était lui qui arrivait le mieux à se contrôler, à refouler son sentiment. Et en fait, c'est lui qui se jette sur lui et qui s'entrechoque donc avec son ami. Et moi, ce que. On va pour résumer le sublime du film, comme on l'a appelé, c'est pour voir si un film est fort ou pas, on regarde jusqu'à la fin et le plan final de ce film. Moi, je crois que c'est le meilleur plan que j'ai vu, on va dire, ces 5 dernières années. Ça représente en fait toute cette force émotionnelle qui était retenue, on va dire, dans le film pendant 2 heures quasiment et demie. Et donc là, ce plan, c'est tout simple. C'est un plan d'une banalité presque extrême, mais bien sûr, c'est très réfléchi par l'auteur.
Et bien sûr, tu ne vas pas le raconter.
Non, tout à fait. Mais bon, pour moi, ça cristallisait en fait tout l'acheminement du film jusqu'à ce plan qui est, enfin, je trouve, d'une tristesse infinie et qui m'a bouleversé.
Guillaume, tu sembles un peu plus circonspect quant au secret de Brokeback Mountain.
En fait, moi, ce qui m'a marqué tout d'abord dans ce film, c'est qu'il a été en fait précédé d'une espèce d'aura et d'un battage médiatique enfin assez incroyable. Alors, il a gagné à Venise, il a raflé plein de Golden Globes.
Oui, enfin, ça, on a pu le voir pour certains avant même qu'il ait gagné à Venise, honnêtement. Donc,
oui, mais bon, enfin là, après sa victoire, on a les Golden Globes, il fait le 20h en fait, parce que Hollywood, la machine à faire rêver américaine, s'intéresse dans toute sa grandeur à une histoire d'amour entre deux cow-boys, à l'homosexualité. Alors ça surfe un peu sur la vague du gay, chic,
fashion. Je suis pas du tout d'accord, hein, mais je laisserai continuer.
Oui, enfin, l'homosexualité au cinéma, à Hollywood, elle a été représentée... Il y a un paquet
de temps.
Là,
on est
Spartacus de Kubrick avec la scène des escargots et des huîtres entre Laurence Olivier et Tony Curtis. Non, mais c'était plus déguisé, mais c'était ça déjà.
Là, c'est explicite en fait. C'est explicite. On sent qu'il y a les moyens. On sent que le film parle de ça en fait. Et on y met les moyens justement. Alors c'est extrêmement bien fait. Tu parlais des paysages, c'est magnifique. Au début, c'est tourné au Canada en fait. C'est extrêmement bien cadré.
Donc, en fait, c'est pas le Wyoming.
Non, c'est Vancouver.
Les paysages sont magnifiques. Alors il y a aussi de la star en fait. The Patriot.
Attends, Heath Ledger, mais c'est un peu de mauvaise foi parce que Jack Gyllenhaal et Heath Ledger, ils ont quand même explosé cette année. Heath Ledger, voilà. Avant, il a fait que des navets.
Oui, justement, mais
il a quand même fait, je crois que c'est Chevalier.
Et il a fait Lords of Dogtown et des films sans intérêt.
Et il y a eu Donnie Darko aussi.
C'est
ça,
le seul.
C'est Jack Gyllenhaal,
voilà.
Ça.
Oui.
C'était son premier film.
C'était assez bien. Donc,
et moi, je continue au niveau du casting. C'est que le défi du film, c'est qu'il prend que des acteurs ou actrices, dont je parle dans les rôles secondaires, qu'on n'est pas habitué à voir. Je pense Anna Hathaway qui a fait Princesse Malgré elle. Enfin voilà, des choses de midinette.
Et Michelle Williams qui a fait Dawson.
Qui a fait Dawson's
Creek. Qui avait fait le Wim Wenders quand même avant
voilà.
The Land of Plenty.
Mais c'est que des acteurs, on va dire, soit de télévision, soit, bon, Jack Gyllenhaal, là, toute sa famille a baigné dans le cinéma depuis qu'il est né, donc c'est un peu différent, mais c'est, enfin voilà, on a parlé de Matt Damon et d'autres pour les rôles principaux, et là je trouve qu'au contraire on se retrouve avec une bonne surprise avec les deux candidats quoi.
Bah oui, je trouve que l'interprétation est plutôt très réussie. Ang Lee sait diriger en fait ses acteurs et enfin, j'y ai cru dans un premier temps, quand ils sont dans la montagne, j'ai trouvé ça assez magnifique, assez retenu, assez juste. Et puis, très très vite, en fait, j'y crois pas du tout. Il n'y a pas de passion entre ces deux-là, il n'y a pas d'alchimie qui passe. Enfin, même leur première scène d'amour, on n'y croit pas, c'est violent, il n'y a pas de tendresse.
Mais évidemment qu'il y a de tendresse.
C'est réaliste, hein, tout simplement. C'est
Attends,
ça que j'appelle la maladresse qui
et
sublime,
juste
en fait.
Après, l'un des deux dit, mais je suis pas pédé. Et l'autre, tu dis, mais moi non plus. Mais parce qu'ils sont tellement étonnés par ce désir qui les submerge. Qu'ils en sont tout retournés, qu'il y a une espèce de rage parce qu'ils n'ont pas envie de. Et puis le désir est plus fort qu'eux. Je pense que c'est ça, enfin c'est mon interprétation.
Bah oui, mais quand il y a du désir, je ne sais pas, il y a un peu d'amour ou de tendresse, ou je ne sais pas, ils continuent à se voir pendant 20 ans, 3 fois par an, où ils passent leur temps à boire du whisky et à consommer. Alors si ça, c'est une
histoire d'amour... Il y a des ellipses, hein.
Non, ce qui est très très bien fait, c'est que tu parles de quand ils se voient, mais ce qui est très très bien fait, c'est que quand on voit leur rencontre, mais on ne voit jamais ce qu'ils font. Au contraire, il dit « je vais aller pêcher ». Mais on ne voit rien, on voit quand ils se retrouvent et quand ils se quittent. Et au contraire, c'est ça qui est parfait. Et moi, ce que...
Ah non, là, je suis pas d'accord.
Si, c'est
clairement
quelque chose
dans
qui
le
nous
film...
est même interdit à nous.
Voilà, tout à fait.
On sait qu'ils ne pêchent pas, puisque justement...
Oui, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Oui. C'est ça qui est... Enfin, entre
et
guillemets...
Enfin, on les voit boire du whisky et on devine ce qu'ils font. Enfin, moi, ce qui m'a marqué...
Mais non, mais enfin, attends, ils passent pas 3 jours...
Enfin, tu vois, tu dis qu'ils boivent du whisky. Moi, je me rappelle même pas dans le film. Je crois pas, ça doit être une scène dans le film sur 2h30.
C'est tout le temps. Tout le temps, enfin... Et puis ils le disent clairement à plusieurs moments, enfin j'ai bien noté cette chose, enfin on sent qu'ils vont quand même là pour se retrouver, qu'ils ont justement ce désir de consommer en fait. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est le fait que ce soit un film d'hétérosexuel sur les homosexuels. Alors, tous les acteurs,
attends,
le réalisateur...
Anglais, il n'est pas hétérosexuel.
Mais si, évidemment.
Non, mais depuis tout à l'heure... Enfin, je vais...
On va pas commencer à dire voilà. Depuis
tout à l'heure, tu dis, voilà, c'est un film sur les homosexuels, battage médiatique, les Américains s'intéressent à l'homosexualité. Mais depuis, donc, qu'il a remporté le Grand Prix à Venise, et les critiques américaines, françaises, ou le public qui a pu voir le film, dit bien... Tout le monde dit la même chose. Ah bon, ça parle homosexuel, mais c'est avant tout une histoire d'amour. Ce n'est pas une histoire d'amour entre homosexuels, c'est une histoire d'amour,
mais
point.
Justement, cet amour, on le voit pas, on
mais
le sent
si,
pas,
au
on
n'y
croit pas. On n'y croit pas entre des gens qui se voient pendant 20 ans, qui quand
mais
même
déjà,
épousent,
se pendant 20 ans.
Épousent chacun une femme.
C'est le poids des conventions sociales.
Des enfants.
Mais ça existe encore aujourd'hui.
Le poids des conventions sociales, ok, dans les années 70, mais 20 ans plus tard, on n'y croit plus trop. Enfin, au bout d'un moment, enfin, je sais pas,
mais
on assume
son... Ça se voit que t'habites pas au fin fond du Wyoming, toi, parce
qu'à mon avis... On assume son amour un minimum, quand même.
Non, mais alors là, c'est des contingences, je dirais, personnelles et morales, là, qui rentrent en
non,
ligne
non,
de compte.
Je dis que je ne crois pas à l'histoire, en fait. À l'histoire de ces deux hommes qui s'aiment. Pour moi, l'amour, c'est pas ça. Alors, il y en a un qui
pour
va...
Moi, là, attention quand même. Hein. Là, tu vas sur des... Non, non.
Y a,
ça devient franchement glissant, là. Alors, on va recentrer un peu.
Si vous me laissez finir, s'il vous plaît. Un personnage, à un moment, va voir un prostitué, en fait, homosexuel,
c'est
justement,
Jack.
Au Texas. Comme si... Au Mexique. Comme s'il n'y avait pas de prostitué masculin au Texas. On découvre
c'est
plus ou moins... Que
il
y a plein d'homosexuels au Texas. Il va dans une fête, il en rencontre un tout de suite comme ça. Ils finissent tous par même. Ils ont quand même un désir qui est quand même incroyable envers un peu toutes les femmes qui passent, serveuses, cowgirls, etc. Et
alors le film que tu as vu, il s'appelle comment? Ça doit pas être Brokeback Mountain.
On n'a pas l'impression d'avoir vu le même film là. C'est très étrange, mais vas-y, continue.
Et justement, enfin, ils se jouent un peu à cache-cache entre eux. Ils se séparent, ils se retrouvent sans vraiment s'impliquer un minimum. Moi, je trouve que ça reste vraiment très superficiel. Que Ang Lee finalement ne détaille pas du tout cette histoire d'amour. Il va pas en profond dans les sentiments. Et surtout, moi, c'est les 20 minutes de la fin qui m'ont absolument scandalisé. La Hollywood sort l'artillerie lourde à émotion. Alors on a la veste qu'on récupère, on a un des personnages, enfin je vais pas raconter le film, enfin voilà, et on a justement ces magnifiques plans, on va revoir la mer, etc. Et je trouve que ça en fait des tonnes, et j'ai pas d'où tu crouches, je suis désolé.
Bon, non, on va s'arrêter là sur Brokeback Mountain, parce que malheureusement ou heureusement, on a d'autres films à traiter. Faites-vous votre opinion, allez voir Le Secret de Brokeback Mountain, et lisez le livre aussi d'Annie Proulx, qui est magnifique, qui est réédité aux éditions Grasset pour l'occasion à la sortie du film. On passe à toute autre chose, Marion. Et comme tu es toute seule, tu ne vas pas pouvoir t'engueuler avec toi-même. Il s'agit d'Une langue à l'autre, un documentaire de Musafa Lesafa. Voilà. Non, pardon, de
Nourrit
à vive.
Nourrit à vive. Donc, c'est un documentaire qui avait déjà été présenté l'an dernier à Paris au Festival du Cinéma International. Pour poser les choses en deux mots, Nourrit à vive interroge un petit peu ce que c'est que la langue hébraïque aujourd'hui en Israël. J'ai commencé par parler de la dernière séquence, ça peut paraître un peu alambiqué. On est chez David Epstein, qui est un rabbin, philosophe, qui parle de la langue hébraïque comme une impossibilité. Lui est français, arrivé en Israël il y a quelques années, et il parle de cette lutte entre sa langue maternelle et l'hébreu qu'il a dû apprendre à raison de souffrances et de confrontations, etc. Une autre émigrée russe cette fois-ci, qui parle de la langue hébraïque comme une comédie, un autre grand écrivain émigré polonais qui a vécu la Shoah, etc., qui parle de la langue hébraïque comme de son apprentissage, comme le remplissage d'un corps avec de la terre, avec des graviers, quelque chose de très très violent. Donc c'est ça, en 10 portraits, Nourit Aviv dresse un panorama de ce qu'est la langue hébraïque aujourd'hui, qui est surtout une lutte interne. Mais ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est qu'avec cette fouille de personnages en 10 petites cases comme ça, en 10 petits blocs, elle alterne avec des plans très très fluides sur le territoire d'Israël comme on l'a rarement vu. C'est-à-dire qu'elle est sur des champs, des espaces ouverts, un territoire presque abstrait, désert, où il n'y a pas d'obstacles. C'est vrai qu'on parle toujours du conflit en Israël comme quelque chose de vraiment dans la terre, quelque chose de visible, avec des murs. Les documentaires israéliens nous ont beaucoup placés face à des obstacles. On pense à Avim Ograbi, les checkpoints, etc.
Amos
Gitaï. Et là, c'est ce qui est complètement très très étonnant et très très intéressant, c'est qu'on visite le territoire d'Israël comme quelque chose de complètement abstrait, un territoire libre avec une espèce de fluidité, l'image se libère, quelque chose de très très paisible. Et finalement, d'un portrait de la langue à un dessin cartographique du territoire, on se rend compte que Nourit Aviv a finalement des buts généalogiques. Elle essaye de revenir sur l'expérience intime de ces gens et la sienne aussi. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vraiment caractéristique dans le documentaire israélien aujourd'hui qu'on a pu voir chez Amos Gitaï déjà, parce que Nourit Aviv a été aussi assistante d'Amos Gitaï sur ses reportages, les premiers reportages qu'il a pu faire dans les années 80, où justement il rapprochait la visite du territoire d'Israël à une expérience intime, à quelque chose de très 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 personnel.
Donc, il s'agissait d'une langue à l'autre, de Nourit Aviv. On le voit où, Marion, ce film ?
Alors, c'est
une salle
aujourd'hui,
où
une salle, le cinéma Les Trois Luxembourg.
D'accord.
À Paris, rue Monsieur le Prince. Et chaque projection, en fait, il y a des projections sur fin janvier et début février. Et Nourit débat. Il va y avoir en l'occurrence Alain Fleischer et Georges Moustaki, qui sera présent le 29 janvier, je crois, pour parler du film avec la réalisatrice.
Parfait, d'une langue à l'autre, Nourit Aviv, au 3 Luxembourg. Vous l'aurez compris, allez le voir. Marion est enthousiaste et quand elle
très,
l'est,
très, très beau
c'est
film.
Pas pour rien, habituellement, contrairement à d'autres. N'est-ce pas, Vincent ? Non, je plaisante. Alors, Vincent, tu as une minute pour me parler de Chaos. T'as de la chance, toi.
Donc, c'est le film dont parlait, bien sûr, notre ami, à savoir la rencontre entre Jason Statham et Wesley Snipes dans Chaos. Un film, donc, d'hommes musclés, huileux.
Ah, ça, c'est pas des cow-boys du Wyoming.
Voilà,
hein.
Ouais, tout à fait. Non, donc, en fait, Chaos, c'est une histoire alambiquée autour de braquage.
Voilà, en fait, c'est le chef d'un gang qui fait un braquage et qui demande à rencontrer un certain inspecteur Connors.
Voilà, tout à fait. Donc, Wesley Snipes d'un côté, le méchant, pas gentil, et de l'autre côté, Jason Statham, un très charismatique, Jason Statham comme d'habitude, et un autre qui cabotine comme j'ai jamais vu ça. Et donc, on est face à une série B dans tout ce qu'elle a de plus beau ou de pire, ça dépend où on se situe, donc ça reste, je trouve, assez sympathique. On a plutôt l'habitude de voir ça en DVD, donc là on a la chance d'avoir un beau cinémascope avec un sacré Dolby Surround, sauf que le réalisateur aime bien faire péter les choses, faut dire ce qu'il y a, que ce soit une banque, une voiture, donc on en prend plein les mirettes. Le récit se suit assez bien, il y a pas mal de rebondissements, ça reste assez superficiel, et le problème c'est que ça veut jouer à l'usage suspect sur la fin, et là on rigole bien quand même.
Bon, il s'agissait donc de Chaos de Tony Gilliot. En gros, bon, c'est pas indispensable, quoi.
C'est pas, non, du tout.
D'accord. Un peu de musique et on revient tout de suite après avec une autre adaptation littéraire. Décidément, cette semaine, c'est la semaine.
Lentement, le jour tombe, plus un bruit. Tout en haut d'une tour, retentit un cri. Hurleurs branchés, originaux, blasés, vite pourris. Patient 1 est désabusé. Patient 2 veut tout dire.
dur, qu'elle comprenne sa température. Même sans cesse, des guerres, à faire me subir. Me supplie à genoux de lui faire quelques fractures. Toujours d'accord pour prêter son corps. Électrochoc, il en demande encore. Passion sacrée comme de sévice au service du docteur X. Passion cismate de film X au service du docteur X. Moi je travaille pour le docteur.
De retour dans Extérieur Nuit. Alors, excusez-nous pour le dérangement. Vous avez entendu Marion, c'était sa délicieuse voix durant la musique. Mais comme elle dit toujours des choses intéressantes, c'est pas très grave.
Voilà, c'est la critique prémonition. Comme ça, ça anticipe sur la prochaine.
Voilà, c'est ça. Prochaine. Donc, en fait, vous avez un peu des.
C'est la nouvelle rubrique, c'est le lancement.
Exactement, tout à fait. Voilà, donc faites bien attention pendant les morceaux. Maintenant, on chroniquera d'autres films. Alors, là, plus de musique, mais on va quand même vous chroniquer un film, à savoir Orgueil et Préjugés, Pride and Prejudice. Le film de Joe Wright. Beaucoup de personnes nous connaissent, hein, je pense qu'on peut le dire, avec Keira Knightley et Matthew McFadden. Peut-être avez-vous lu le roman de Jane Austen, sinon, et si vous n'avez pas encore vu le film, l'histoire brièvement, Monsieur et Madame Bennett ont 4 filles qu'il va s'agir de caser. Et c'est 5 filles ? Ah, je crois qu'il y en avait 4, 5. C'est ma soirée ce soir. Guillaume, si tu pouvais éviter de revenir les semaines suivantes, parce que les gens, ils s'en seraient pas rendus compte. Bref.
Non, mais soyons rigoureux, Joséphine.
Tout à
c'est
fait.
C'est important.
Donc, 5 filles à caser. On est en Angleterre. Dans quelle région, je sais plus. Mais enfin, on est à la campagne. Les Bennett sont des notables, mais bon, pas les mieux lotis. Et voilà, quand on a 5 filles à marier, ça veut dire 5 dots, ce qui est pas évident. Et arrive dans le voisinage, deux charmants monsieur. Qui seraient des prétendants potentiels, Guillaume. Et est-ce que ce charmant roman, parce que c'est vraiment un charmant roman, passe le cap de l'adaptation à l'écran ?
Passe le cap, je ne sais pas, mais bon, comme tu disais, ces 5 filles, en fait, à l'arrivée de ces deux messieurs, sont complètement travaillées de l'intérieur par leurs hormones, elles n'en peuvent plus. Le hic, justement, c'est qu'elles sont riches, mais pas top, en fait. Et donc, les deux messieurs sont deux messieurs
de
la haute.
Attends, elles ne sont pas très très riches.
Non, ils ne sont pas très très riches,
oui,
mais les messieurs sont des messieurs de la haute. Ah. Donc, évidemment, gap social, vont-elles réussir à passer ce gap pour les épouser ?
Mind the gap.
Vont-elles réussir à surmonter leur orgueil et passer outre leurs préjugés ? Et bah c'est là tout le suspense du film en fait. Dès le début comment ça va se finir en fait. Et donc pendant 2 heures, la belle Keira Knightley pourchasse le
Elizabeth
beau Matthew McFadden.
Qui joue Marc Percy. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors le tout dans une campagne anglaise un peu de carte postale, il faut dire, il y a un peu de brume et tout, des résidences secondaires de luxe, des fermes rurales et oui, qui sentent bon la grippe aviaire. Alors on est devant un film très très fleur bleue avec de beaux décors, donc je disais de beaux paysages, de beaux costumes, de beaux sentiments. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est lourd. Alors la caméra bouge en permanence, c'est insupportable. Alors un cadrage très serré, on a des effets de transition super lourds. Alors une flamme dans les yeux qui finalement se reflète à partir d'une cheminée, etc. Des effets de flou, de mise au point, etc. C'est comme ça tout le long. Alors on n'est aucunement surpris par l'action, puisqu'en fait l'image se base sur un procédé très très simple. Quand il pleut et que l'image est sombre, c'est qu'il va se passer quelque chose de triste. Et quand il fait beau et que l'image est claire, eh ben ça sent la bonne nouvelle et l'arrivée des violons et du piano. Alors c'est au final un film complètement niais et inoffensif, si ce n'est à cause de ce pauvre Donald Sutherland.
Il est bien dedans, qu'est-ce qu'il est bon Donald Sutherland.
Mais, enfin il a tourné dans Clute et dans Don't Look Now et il se retrouve dans ce sombre
comment
navet.
Comment tu payes les impôts toi? T'es marrant.
Certes, mais le pauvre voilà, il est plutôt jeune.
La réponse.
C'est dur pour lui.
Grégoire, Guillaume vient d'assassiner, je pense
oui,
qu'on peut le dire,
l'impression.
Pride and Prejudice. Est-ce que toi, tu vas le sauver un peu?
Je vais essayer en tout cas. Effectivement, c'est un film complètement inoffensif, mais c'est peut-être pas si mal que ça. C'est donc le problème peut-être du film, c'est que l'histoire, donc Orgueil et Préjugé, même si on l'a pas forcément vue telle quelle, elle a tellement imprégné beaucoup de comédies romantiques que du
Bridget
coup on
Jones,
connaît, voilà, on
notamment.
Connaît ça, on a l'impression de connaître l'histoire à l'avance. Donc c'est vrai que c'est un petit peu un inconvénient. Après, moi j'ai trouvé que justement le travail sur la reconstitution était assez sobre finalement, parce que il y a de beaux extérieurs, il s'inspire pas mal de la peinture du 19e siècle, début du 19e siècle pour donc
on
effectivement
pense à
c'est
Hogarth
par... voilà,
pour les intérieurs
c'est
bourgeois.
Parfois un petit peu grandiloquent sur les extérieurs, mais les intérieurs sont pas trop chargés. La réalisation est comme souvent dans les films de reconstitution, c'est des longs travelling en steadicam où on passe d'une pièce à l'autre. Mais moi, finalement, ce que j'ai retenu du film, c'est que je m'attendais à beaucoup m'ennuyer et 2 heures plus tard, bah j'ai pas vu le temps passer et finalement ça, c'est voilà.
J'ai donc... Vincent.
Moi, je l'ai pas vu, donc c'est assez rapide. Moi, j'ai vu par contre la mini-série.
Oui, alors
qui
avec
est...
Colin Firth.
On ne peut.
C'est génial.
C'est génial.
Alors, peut-être aller plutôt voir ça, parce que moi, j'ai vu le film et la série de la BBC. Et ça vaut quand même des. Je crois que. Et ça, vous ne l'avez pas soulevé, il y a un problème, c'est que Mark Darcy. Alors, il faut savoir, Jane Austen, c'est une littérature de nana. C'est-à-dire que toute nana normalement constituée l'a lu aux alentours de 16-17 ans. Non, pas Marion. Mais bon, Marion, c'est... Elle va voir des films qui passent dans une salle, elle peut pas tout faire. Bref. Et Marc Darcy, c'est un peu le prototype quand même de l'idéal masculin. Et moi, au moment de la projection, toutes les filles quand même attendaient de voir ce qu'allait donner ce Marc Darcy-là. Et Matthew McFadden n'arrive pas à la cheville de Colin Firth. Donc... Je pense au.
Si d'ailleurs il a été réutilisé dans Bridget Jones, c'est qu'il y a une raison. Hein.
Bah, Marc Darcy, voilà. Et puis c'est vrai que dans la mini-série de la BBC, il a un moment une chemise mouillée qui, voilà, enfin qui a marqué des générations de téléspectatrices.
On en parle
en
encore.
Bah, la preuve. Et non, mais c'est vrai que ce qui est un peu dommage aussi dans cet Orgueil et Préjugés et qui fait défaut par rapport au récit, c'est que à la base dans le roman de Jane Austen, qui est très fin, très subtil, c'est vraiment une fine. Peintre des sentiments amoureux, Elizabeth Bennet et Marc Darcy, c'est pas évident au départ. Lui, il la dédaigne, la prend pour une gourde de province, et lui pour un prétentieux. Or, là, dans le film, au bout de 2 minutes, on se rend compte que, bon, ils se jettent des petits regards et ils s'aiment. Et c'est très dommage, ça tue vraiment tout ce qui faisait l'essence même de ce roman qui le rend si magnifique. Enfin, c'est vraiment un des plus beaux romans de la littérature anglaise classique. Enfin, en tous les cas, c'est ce qui se dit et c'est hautement mérité. Donc, rabattez-vous peut-être plutôt sur la mini-série de la BBC et puis elle se
je
trouve
sais pas
qu'en
si
DVD,
elle est disponible
si,
en, DVD
en zone, en zone
ouais,
1.
Je n'étais pas sûr.
Donc c'est un peu compliqué. Donc bon, allez voir celui-là, mais peut-être que ça donnera l'envie à des distributeurs de sortir celui de la BBC. Ce serait pas bien, ce serait pas mal plutôt. Pardon. On passe à tout à fait autre chose avec le film.
Ah bon?
Oui. Oui, le film régressif de la semaine. Et comme vous le savez, qui dit régression dit Vincent dans cette émission. Donc, Un ticket pour l'espace de Éric Lartigot avec Cad, Olivier, Marina Foïs.
Un film de Cad et Olivier, donc.
Voilà. Et Guillaume Canet, qui s'est séparé de Diane Kruger aujourd'hui.
J'ai vu ça aujourd'hui aussi.
Vous avez vu ça?
À cause de leur carrière respective.
Voilà. Ça, moi, ça me réjouit. Bon, bref. Donc...
Qu'elle continue à nous faire des Wicker Park et on verra. Hein.
Oui, mais surtout Guillaume Canet est libre. Et pour vous, les garçons, Diane Kruger aussi, c'est bien. Non, bon, d'accord. Parlons plutôt d'un ticket
là,
pour
aujourd'hui,
l'espace.
Là, aujourd'hui, c'est Cowboy, c'est tout.
C'est vous êtes dans un trip Cowboy. Bon, bah, on va vous y laisser. Donc, Un ticket pour l'espace, c'est simple. L'agence française spatiale décide de redorer un peu son blason et créer une sorte de tac au tac. Mais à la clé, si tu grattes, c'est pas de l'argent qui tombe, c'est un voyage au bord d'une navette spatiale. Deux heureux gagnants, CAD. Et Guillaume Canet vont embarquer avec Marina Foïs, une spationaute bigoudaine, et Olivier, un commandant de bord un peu psychorigide. Et évidemment, dans l'espace, personne ne t'entend crier.
Bah, comme l'annonce l'affiche, n'importe qui pouvait gratter, je crois, et n'importe qui a gagné. C'est assez représentatif, puisque CAD est... comment dire ça ? Joue le CAD, c'est-à-dire vanne sur vanne, décalage sur décalage. Et bon, pour ceux qui sont pas au fait de l'univers de CAD et Olivier, c'est pas trop un mal, parce que leur précédent film, qui était une adaptation d'un sketch qu'ils faisaient sur Comédie, et qui s'appelait Qui a tué Pamela Rose, était une vraie déception. Il y avait un problème de récit, c'était encore Éric Lartigot, mais c'était très mal filmé. Donc là, ils ont décidé de venir avec une vraie histoire, entre guillemets.
Ouais, enfin, voilà. Hein.
Il y a une histoire, c'est-à-dire que c'est pas comme si... Ils avaient essayé de bricoler des sketchs qui reliaient par un fil conducteur. Là, je trouve que c'est plus au contraire. C'est-à-dire que c'est les blagues qui viennent parasiter le récit. Et je trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux. Alors, faut s'accrocher. Dès le début, ça commence. C'est un mouton qui pilote un hélicoptère. Alors, voilà. Si on n'est pas trop enclin à ce genre d'humour, faut peut-être passer son chemin.
Il y a aussi le dindon intergalactique.
Oui, mais là, si tu vas raconter la fin, arrête.
Non, je raconte pas la fin. Je dis juste qu'il y a un dindon intergalactique.
Bon, voilà. Et en fait... Tout est sur le décalage permanent. Je trouve que les vannes sont pas si lourdes que ça. Je dis pas que c'est fin. Attention. Je dis que c'est
du whisky.
Non, je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Alors c'est pas non plus. Voilà, c'est l'écurie Canal Plus, c'est l'écurie Comédie.
C'est l'écurie pas drôle quoi.
Non, je suis pas du tout d'accord.
C'est pas drôle.
Moi je trouve ça très drôle.
C'est un peu comme.
Alors attention, c'est un peu comme moi la tour Montparnasse infernale d'Eric Ramsey.
Bah, voilà.
Ceux qui n'aiment pas la tour Montparnasse n'aimeront pas, c'est sûr, Un ticket pour l'espace. C'est pareil, c'est des deux gamins qui ont un gros jouet qui coûte des millions, d'un côté une tour, d'un côté une station spatiale, et ils vont te la casser à force de vannes, de comiques de situation, de comiques de répétition. Et moi, j'ai fonctionné à 95%, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de récit. Et oui, c'est pas mal, et parce que le film marche, enfin, fonctionne très bien. Par contre, il ne marche pas du tout au cinéma, parce qu'il est quatrième de la semaine, ce qui est, par rapport à la promo qu'ils ont fait à la télé, ce qui est plutôt mauvais. Même Popoko est devant, ce qui est pas mal, ça. Par contre.
Bon, ça c'est bien, ouais. Oui. Bon, donc, Un ticket pour l'espace, Vincent a aimé. Personnellement, j'étais plus que dubitative. À vous de faire votre choix et de nous envoyer vos commentaires à ciné@radiocampusparis.org. Je suis un peu déçue que tu n'aies pas reçu plus de lettres de lynchage entre le fait que tu racontes les films, que tu recommandes des films de Cad et Olivier. Un peu déçu, ça va peut-être venir en 2006, les gens vont se... Allez, hein. Tout de suite, on va parler du film de Michel Piccoli.
Waouh, c'est vachement intéressant.
Waouh, Guillaume, c'est vachement intéressant. Il s'agit de « C'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé », un très beau titre. Et est-ce que c'était le film dont on rêvait ?
Hélas, non.
Aïe.
J'ai une vraie affection pour Michel Piccoli. Je trouve que c'est un des plus grands acteurs du cinéma français vivant. C'est un peu comme Donald Sutherland, j'ai une vraie affection pour lui aussi, et je dois dire que j'ai été vraiment, vraiment, vraiment déçu. Alors c'est une histoire de petits bourgeois, en fait, qui switch entre, excusez-moi pour cette
femme et maîtresse.
Anglais. Voilà, entre femme et maîtresse, donc qui passe d'un appartement à un autre. Quand il n'est pas dans un appartement, il est à son club, et le tout est très très vulgaire, les couleurs sont criardes, les filles sont assez moches, tout est moche dans ce film en fait. Mais c'est pas trop le problème, puisque c'est une vulgarité qui à la rigueur peut être assumée et qui peut être intéressante. Le problème de
ça
ce film...
Ça fait Ferreri un peu, non ? Ce que tu racontes, on dirait...
Non, parce que Ferreri, il y a un vrai entrain, il y a quelque chose derrière, c'est vraiment clownesque. Là, pas du tout, en fait. Ça part de nulle part et ça n'arrive à rien, en fait. Et donc, on comprend pas trop bien l'histoire, on comprend pas trop où il veut en venir. Et ça dure très peu longtemps, en fait. Ça dure, je crois, 1h10 ou 1h20. et on s'ennuie dès le début en fait. On comprend rien, on s'ennuie et voilà.
Donc c'était c'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé, et tu n'as pas beaucoup rêvé toi-même pendant le film. On va parler très rapidement, Grégoire, de Riviera d'Anne Vilasec. Parce qu'on sait qu'à Radio Campus, les garçons sont fans de Vaina Diocante,
oui.
Une actrice qui, voilà, un peu comme Anna Mouglalis. Aime bien,
oui, dans,
être
dans
nue
un autre
dans
style,
les films.
Voilà. En gros, rapidement, l'histoire, c'est Antoinette qui est Miu Miu, qui est une femme de chambre dans un grand palace de la Côte d'Azur, qui vit seule avec sa fille qui s'appelle Stella, qui est donc interprétée par Vaina Diocante, qui rêve, comme son prénom la prédestine, à devenir une star et à se faire refaire la poitrine. En fait, la mère, elle, a d'autres plans pour elle et va essayer de lui faire rencontrer un riche client de l'hôtel.
Elise Moon, en l'occurrence.
Elise Moon, qui est donc agent immobilier, qui deal avec des Coréens et des Russes, donc on ne sait pas trop dans quoi il se fourre. Le film porte une grosse attention au visage. Souvent, ils sont filmés longtemps, en très gros plan, parfois un petit peu au ralenti, et essayent de nous faire voir les hésitations des personnages. Mais moi, j'ai eu vraiment un problème avec ce film, c'est-à-dire que je trouvais qu'il sonnait faux, les dialogues, le fait qu'Elise Moon, parfois, avait des résurgences de son personnage de comique ancien.
Qui cherche une blonde à forte poitrine, justement.
Voilà, qui ne collait pas dans l'atmosphère du film. Et j'étais encore plus déçu sur la fin, parce qu'en fait, à un moment, vers la fin, je me suis dit, ah là, si elle arrête son film maintenant, sur une scène qui vraiment joue avec brio sur le tension et le malaise, là, elle est très très forte. Et puis non, elle en rajoute une autre scène sur le tournage d'un porno qui nous rajoute au stabilo boss que effectivement, les starlettes, la frontière est un peu fine entre la déchéance et la gloire. Donc, à mon avis, c'est vraiment un film raté d'Anne Vilasec. C'est dommage parce que son film précédent, Les Autres Filles, donc il y a 3-4 ans, était plutôt réussi, en l'occurrence.
Et reste à revoir Les Autres Filles, peut-être, plus que La Riviera.
Voilà, c'est ce que je vous conseillerais, mais après, ça va peut-être être plus difficile.
Certes, mais bon, qui ne tente rien n'a rien en même temps. Avant de parler de DVD, toujours avec toi, Grégoire, parlons rapidement du festival Télérama, dont Radio Campus Paris est partenaire, aux joies. C'est quand même un très beau festival. Et
pas
du
cher
18...
surtout.
Voilà, puisque du 18 au 24 janvier, vous allez pouvoir voir les films sélectionnés par Télérama pour la modique somme de 3 euros.
Soit
c'est quand même cadeau bonus.
Un tiers d'une place.
D'une place, voilà, ouais. Puisqu'on le sait, ici on le dit suffisamment, est-ce que ça vaut les 9 euros pour aller voir le film? Et ça, Vincent, c'est une question qui le hante à peu près toutes les semaines. Je vous dis rapidement le titre des films proposés dans le cadre du festival Télérama. La vie aquatique de Wes Anderson, Mysterious Skin, Le temps qui reste, Le cauchemar de Darwin, Match Point, de Battre, mon cœur s'est arrêté, Peindre ou faire l'amour, La moustache de President's Last Bang, Caché, Broken Flowers, L'enfant, The Taste of Tea, Les Amants réguliers, History of Violence. Et alors, on va faire un rapide tour de table et chacun va me dire, mais alors vraiment en deux mots, quel film il conseillerait aux auditeurs de Radio Campus qui seraient aussi détenteurs du pass Télérama, voudraient profiter de ce festival, quel film leur conseillerait-il, Guillaume?
Au risque de me répéter, pour la quatrième fois, je vais vous conseiller L'enfant.
L'enfant, alors voilà.
Les frères d'Ardenne, vraiment un film très très fort, très poignant, très sec, vraiment filmé magistralement, le chef-d'œuvre de l'année.
Donc L'enfant pour Guillaume, pour Vincent ce sera... Il n'y a pas de film de Cadet Olivier dedans.
Oh bah dis donc,
oh.
Donc alors, ça sera dans le même genre, un peu humour... Non, ça sera Caché de Michael Haneke. Michael Haneke, il est allemand.
Autrichien.
Il est né en Allemagne. Michael Haneke, tout simplement parce que c'est son film, entre guillemets, le plus accessible pour découvrir sa filmo d'avant. Et donc c'est... Sa capacité à manipuler les images pour, entre guillemets, nous inculquer certains travers de notre société. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur manipulateur de l'image aujourd'hui que lui.
Grégoire.
Moi, j'ai envie de conseiller La vie aquatique parce qu'il est sorti d'abord en début d'année et c'est un film finalement très drôle qui joue constamment dans le montage sur le basculement et le point où on perd l'équilibre en fait.
La vie aquatique pour Grégoire. Marion.
Sur un chéri sur la vie aquatique qui...
Bon, alors t'as le droit de choisir un autre film parce que faut pas surenchérir. Il faut prendre la variété en matière de cinéma.
Bon, alors la variété History of Violence, pour décadrer complètement,
qui est quand même...
De David Cronenberg.
Qui est quand même le film choc de cette année, surtout à retenir pour le personnage assez incroyable, fantasmagorique de Ed Harris.
Et pour ma part, je vous recommanderais chaudement Les Amants Réguliers de Philippe Garrel. Un film somptueux, Guillaume, je crois que tu es d'accord avec moi. La plus belle, l'une des plus belles histoires d'amour avec les cow-boys homosexuels hein, de cette année qu'on a pu voir.
Dernière.
De l'année dernière. Oui, c'est vrai, mais bon, on les a vus à peu près au même moment, c'est pour ça. Donc Les Amants Réguliers, la plus belle histoire d'amour et le film le plus désabusé sur mai 68 aussi qu'on ait pu voir. C'est un noir et blanc sublime, des dialogues magnifiques.
Je crois que c'était deux mots. Je crois que c'était.
Tant on a pris plus toi. Et je finis juste en disant, en parlant d'un Louis Garrel incandescent. Voilà. Et on va tout de suite passer à la rubrique DVD, Grégoire.
Le DVD de la semaine.
Le DVD de la semaine, il s'agit d'Adieu d'Arnaud Despalières.
Oui, Adieu, c'était un film ovni un petit peu qui était sorti il y a presque 2 ans maintenant, il me semble. Un film ovni dans sa forme et dans sa narration, parce que c'est assez difficile de raconter. En gros, disons qu'il y a 2 histoires en parallèle pour raconter le scénario. Il y a d'abord Ismaël qui va devoir, contraint et forcé, quitter son pays, qui est l'Algérie, parce que le climat là-bas est assez malsain. Il écrit, on va entendre ses lettres en voix off, d'abord à sa femme, puis ensuite tout au long du film, il écrit à sa fille, il raconte à sa fille l'histoire de Jonas. Et tout de suite, je vais vous faire écouter un extrait pour donner l'ambiance de ce qu'il raconte en fait.
Il y a une semaine, un vieux m'a arrêté dans la rue et a pris le livre que j'avais à la main. C'était des poèmes de mon père. Il voulait m'en montrer la perversité cachée. Je me suis sauvé. Il a gardé le livre. Le lendemain, j'ai bu avec les amis. Après les avoir accompagnés dehors, je me suis endormi dans la rue. Le matin, j'étais réveillé par le même vieux qui me demandait si je n'étais pas le fils de Haddou. Tu imagines ce que j'ai répondu.
Voilà, donc Ismaël qui est obligé donc de quitter l'Algérie. Et l'autre histoire, c'est ça se passe quelque part en France, c'est pas spécialement précisé, c'est dans la campagne un peu montagneuse. Un jeune homme est mort dans un accident de voiture et donc ses proches vont d'abord apprendre la nouvelle et se réunir, donc le père, ses frères, une belle-sœur, et pour enterrer ce jeune Simon. Et en plus de ces 2 fils narratifs vient... Un camion donc on a vu pendant le générique, un générique vraiment superbe, passionnant. On le voit quasiment la conception du camion, on le voit ce qui monte, on voit les chromes des machines, on voit les essieux qui forment finalement cette espèce de monstre de la route qui va rythmer le film, apparaissant entre les autres films narratifs de temps en temps jusqu'à un final que je ne vous raconterai pas parce que je ne fais pas comme Vincent.
C'est aimable.
Le lien entre ces 3 finalement branches, c'est essentiellement le son, le travail du son et de la musique. Alors Arnaud Despalières a travaillé avec le musicien Martin Wheeler et qui a donc vraiment travaillé. En plus des dialogues, il y a souvent 3-4 couches sonores, c'est-à-dire qu'il peut assez facilement mettre de la musique classique et mettre une sorte de vrombissement de guitare électrique en sous-main en même temps. Et ça, c'est un travail très 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 passionnant. On pourrait d'ailleurs, je pense, écouter le film sans voir les images et on aurait déjà beaucoup à en penser. Et c'est bien qu'il y ait une unité comme ça parce que évidemment le film d'Arnaud Despalières brasse énormément de thèmes, donc le politique, les histoires bibliques, le deuil évidemment. Il parle aussi beaucoup de littérature, pas forcément directement, même si on voit des personnages lire ou parler, se souvenir de poèmes, mais on peut voir au générique qu'en fait il y a des morceaux de texte, des pans entiers de texte qui sont insérés dans les dialogues et donc.
Quels sont les auteurs donc qui sont récités?
Je l'avais noté, mais là je l'ai pas sous les yeux.
D'accord.
Parce que je suis à table. Mais il y a des choses comme effectivement, évidemment il y a Moby Dick puisqu'on parle de Jonas. Des choses comme ça. Arnaud Despalières en fait est un cinéaste qui travaille essentiellement sur la séquence, c'est-à-dire il accole des blocs de scènes qui forment donc un bloc cohérent et il les fait un peu comme un patchwork. D'ailleurs, c'est dans un des bonus, je vais y revenir tout de suite. Émile Breton, journaliste à Libération, cite un texte de Gilles Deleuze qui parle de patchwork et l'applique au film. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il colle les séquences, il colle les ambiances, il travaille parfois à la limite de l'expérimentation, aussi bien sonore que visuelle, et il donne à ce film une forme vraiment inédite. Parfois, on l'a vu dans le générique, c'est quasiment du documentaire. Parfois, c'est de la fiction. Parfois, on ne sait pas ce qu'on voit. On est dans quelque chose qu'on voit vraiment très rarement au cinéma. Donc du coup, les bonus de ce coffret qui est édité par Arte Vidéo sont aussi un peu comme le film. C'est-à-dire que le bonus principal, c'est que Arnaud Despalières a demandé à 7 personnalités, donc critiques, journalistes, philosophes, de commenter chacun une séquence de leur choix. Ils ont enregistré leur texte et lui a monté le son de ces enregistrements de texte sur les séquences du film, donc a découpé pour que le rythme épouse plus ou moins les images. Et là encore une fois, il a parfois laissé les dialogues, parfois laissé juste la couche musicale, etc. Donc il y a un travail de montage sonore sur les images du film qui est particulièrement inventif et assez éclairant. Et deux autres bonus, un petit portrait assez marrant d'Arnaud Despalières où il nous dit que finalement il aime toutes les sortes de cinéma, notamment que le cinéma d'auteur un peu austère et le cinéma plus commercial. Il dit qu'il adorerait appeler Manuel de Oliveira pour lui parler de Terminator, et donc ça cerne un petit peu le personnage d'Arnaud Despalières, donc qui est à la limite de beaucoup de champs artistiques et qui fait dans Adieu un film superbe et parfois assez drôle aussi.
Donc il s'agissait d'Adieu d'Arnaud Despalières, sorti chez Arte Vidéo pour la modique somme de
25 euros, je crois.
C'est fou ça, à chaque fois je vous demande le prix, vous n'êtes pas fichu de me le donner, vous êtes au-dessus de ça, vous, des considérations matérielles, c'est honteux. Eh bien, c'est la fin de cette édition d'Extérieur Nuit. Je vais m'empresser de remercier Guillaume, Vincent, Marion et Grégoire qui a fait un peu, c'est une sorte de Vishnu, il a parlé en même temps, il a réalisé cette émission, c'était pas gagné. Juste avant de vous quitter, vous rappelez donc le festival Télérama dont nous sommes partenaires et auquel nous vous recommandons chaudement de vous rendre, du 18 au 24 janvier à 3 euros la place. Je pense que vous pouvez trouver toutes les infos sur le site internet de Télérama, à savoir www.telerama.fr. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonsoir, à vous inciter vivement à rester sur les ondes de Radio Campus Paris. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera Laurence, avec notamment le Munich de Steven Spielberg. Soyez là, bonne soirée, au revoir. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da